pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'océan nous fournit une part importante de l'oxygène que nous respirons. La biodiversité qu'il abrite nous nourrit et nous soigne. Voilà pourquoi cette journée mondiale qui lui est consacrée est un minimum. C'est l'occasion de valoriser tous ceux qui le défendent avec passion et engagement, comme nos invités que vous allez découvrir dans un instant. La passion, c'est aussi le moteur des scientifiques qui participent à l'incroyable programme Tropicole. Forer des carottes de plusieurs dizaines de mètres dans les profondeurs d'un cratère brésilien pour lire l'histoire du climat de notre planète. Cela vous intrigue ? Eh bien, soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
L'océan, on le regarde en superficie, en regardant un globe terrestre, depuis les premières merveilleuses images prises lors des missions Apollo. Mais on oublie qu'en fait, il faut le considérer en volume. C'est un volume d'eau beaucoup plus qu'une surface, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à peu près, en gros, il représente largement plus de 90% de tout le volume offert à la vie sur la Terre. Et c'est là qu'il y a effectivement quelque chose comme un peu moins de 4 milliards d'années, que la première cellule issue d'une chimie antérieure, hein, assez délicate, s'est séparée en deux filles. Et ça, c'était le premier clonage, et c'est le démarrage de la biodiversité, hein, cette cellule qui donne deux copies conformes à la maman et qui commence à se développer dans l'océan. Je préfère dire l'océan que les océans. Il n'y en a qu'un, en fait. Hein. Le premier fait important, ce sont des cyanobactéries à l'époque. On est à vers 3,45, 3,7 milliards d'années. Commence à inventer un fabuleux process qui est bien connu, qui s'appelle la photosynthèse. Tout le monde en a entendu parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Elle exige de l'eau, hein, ça ne peut pas se passer sans eau. C'est pour ça que la molécule clé du vivant, c'est bien l'eau. Je dirais même souvent, avant l'ADN, c'est l'eau. Nous sommes faits d'eau. Un bébé humain à la naissance, c'est trois quarts d'eau, je le répète souvent. Donc c'est dans l'eau, avec de l'eau disponible, cette photosynthèse va utiliser la lumière du soleil, gratuite, hein, cadeau des dieux, et puis ce fameux CO2, hein, qui nous pose tant de problèmes aujourd'hui. Et dans l'eau, ce CO2 et cette lumière permettent de produire, quand on a les bons systèmes biochimiques, de l'oxygène et des sucres. Et c'est parce que l'océan a été saturé en oxygène à un moment que la vie pourra sortir de l'océan beaucoup plus tard.
Les paroles du scientifique Gilles Boeuf pour nous rappeler en cette journée mondiale de l'océan que ce sont des profondeurs, de ces profondeurs, qu'est née la vie. Bonjour Hugo Verlhomme.
Bonjour.
Vous venez de publier Demain l'océan chez Albin Michel, dans lequel vous racontez votre fascination pour l'océan. Alors je précise que vous êtes en duplex depuis Bayonne, grâce aux équipes techniques de France Bleu Pays Basque, que je remercie au passage. Alors vous écrivez dans votre livre « L'océan est notre futur, le protéger, c'est sauver l'humanité ».
Ben, on n'a pas d'autre choix dans la mesure où, comme le disait Gilles Boeuf très justement, toute la vie est venue de l'océan. Et en fait, même si on n'aime pas l'océan, même si on ne se sent pas concerné, eh bien, toute notre vie, toute notre nutrition, tout notre futur dépend de l'océan, dont on ne connaît rien, puisqu'on ne connaît même pas 10% de la vie de l'océan, ni 10% de, même pas 5% de toute la topographie océane. Donc, on a des énergies marines renouvelables, on a plein de choses à découvrir. Et ça devrait être une priorité mondiale de mieux connaître et donc de protéger l'océan.
Alors, votre livre est un catalogue très détaillé de multiples associations et initiatives dont les acteurs doivent d'ailleurs tous être mobilisés aujourd'hui. Et nous y découvrons des personnages extraordinaires, hein, comme les frères Berck, par exemple, qui ont traversé l'Atlantique dans une coque de noix de 4 mètres et sans aucune technologie, et des associations hyperactives dans le monde entier. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de les regrouper, de faire cet inventaire ?
En fait, j'ai mis au début du livre deux phrases en exergue qui résument vraiment la philosophie, ma philosophie et celle du livre, qui est « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé » de Voltaire. Donc ça, c'est par rapport au marasme ambiant et au pessimisme, dont je dis toujours le pessimisme, c'est la grande facilité. Et l'autre phrase, c'est une phrase d'une navigatrice qui s'occupe beaucoup des océans et qui va lancer le mouvement pour avoir des eaux internationales qui appartiennent à l'humanité entière, qui dit s'attaquer aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Parce que on a tendance trop souvent à se focaliser sur les problèmes. Par exemple, les plastiques dans l'océan. On sait maintenant qu'il y a des plastiques partout dans l'océan, à l'équateur, au nord, au sud. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a dit et redit en disant des contre-vérités très souvent sur la taille du continent, des îles, etc., on n'a pas avancé, tandis qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour réduire la consommation de plastique, pour éventuellement empêcher les macroplastiques de devenir des microplastiques, puisqu'on sait que 86% de tous les plastiques présents dans l'océan viennent d'une dizaine de fleuves en Afrique et en Asie. Donc déjà, on a un début de solution à un problème gigantesque.
Bonjour Abou Bamba.
Bonjour Anne-Cécile Brun.
Vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Très rapidement, la Convention d'Abidjan, donc, c'est un traité des Nations Unies qui regroupe tous les pays de la façade atlantique du continent africain, donc de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud, et qui inclut aussi le Royaume-Uni, à cause justement de ses territoires d'outre-mer, l'île de Sainte-Hélène, Assomption et Tristan, il me semble, et l'Espagne aussi éventuellement avec les îles Canaries, il me semble. Ouais. Donc nous avons un mandat des États, donc de ces 22 pays-là, pour justement veiller au développement, à la préservation et à la gestion, si vous voulez, des écosystèmes marins et côtiers, pour le bénéfice des populations de ces pays-là.
Alors, comment fêtez-vous l'océan aujourd'hui sur le continent ?
Écoutez, en fait, l'océan aujourd'hui sur le continent, à travers une série de manifestations, notamment en mettant l'emphase tout ce qui est sensibilisation à l'intention des populations, parce que le collègue qui a parlé juste avant moi disait que, effectivement, les déchets plastiques viennent principalement des cours d'eau, c'est des sources de pollution. Principalement d'origine tellurique. Donc le message est adressé dans un premier temps à ces populations-là qui sont les premières responsables, en tout cas, du versement des déchets plastiques dans les océans. Et puis surtout, on va faire aujourd'hui encore d'autres messages au gouvernement, aux institutions d'aide au développement, pour nous attaquer enfin aux solutions et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut venir à bout de ce cancer-là qui a vraiment infesté toutes les côtes de la façade atlantique du continent africain.
Alors justement, là, vous êtes sur RFI, donc profitez-en. Quel type de message peut-on passer aux auditeurs pour éviter que ces plastiques dont parlait Hugo Verlhomme arrivent dans l'océan ?
Le premier message, c'est que les plastiques qui sont déversés dans les océans sont un véritable obstacle au développement socio-économique des pays africains. Dans un premier temps, ces déchets plastiques ou ces sacs plastiques sont un obstacle à la pêche. Vous savez très bien que les poissons ne peuvent pas se reproduire dans un environnement, dans un habitat infesté par les sacs plastiques. La deuxième chose, c'est au niveau de la navigation. La navigation ne peut pas se faire. Et ensuite, beaucoup de pays tels que la Gambie, le Sénégal, l'Afrique du Sud et beaucoup de pays africains tirent leur principale source de revenus du tourisme. Et il se trouve que personne n'est à l'aise d'aller se baigner sur une plage qui est infestée par les plastiques. Au niveau de la santé, et ça c'est un message qu'on lance à la fois aux populations, au gouvernement, il y a plusieurs vecteurs de maladies qui se développent justement au niveau des cours d'eau qui stagnent du fait de la présence des plastiques. Donc des vecteurs des maladies comme la dengue, tout ce qui est chikungunya, et Zika aussi éventuellement. Et enfin, j'aimerais terminer par dire aussi aux populations, au gouvernement et aux partenaires au développement, il faut s'attaquer effectivement aux solutions des sacs plastiques, parce que c'est ces mêmes sacs plastiques-là qui obstruent les rares ouvrages d'assainissement dans les capitales africaines. Et récemment, on a vu que ça a provoqué des inondations au Ghana et 150 personnes ont perdu la vie. Et encore récemment aussi en Côte d'Ivoire, à la fin du mois de mai, il y a eu des inondations, mais énormes, du fait justement de l'obstruction des ouvrages d'assainissement et de drainage par les sacs plastiques. Il y a eu des pertes en vies humaines, mais les dommages matériels sont encore beaucoup plus élevés. On se chiffre déjà à quelques milliards de francs CFA, donc on va dire quelques millions d'euros.
Restez avec nous dans un instant. Nous allons vous faire découvrir la richesse du corail et le magnifique aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris, qui lui aussi fête l'océan tout le week-end à Paris. Avant cela, détente avec un bon Stevie Wonder, Beyond the Sea, forcément, dans C'est pas du vent.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones ? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir ?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me.
C'est pas du vent sur RFI. Nous fêtons aujourd'hui l'océan comme le monde entier avec nos invités. Un océan bien maltraité, notamment au large de la Côte d'Ivoire où la pêche illégale pratiquée par des bateaux chinois et européens fait des ravages, comme le prouve ce témoignage recueilli par Igor Strauss à Kasoukro. C'est un petit village de pêcheurs situé entre San Pedro et Sassandra.
Je me nomme Daniel Jérôme, je suis de Kounoko. Dans la région de Monongaga, et je suis un pêcheur. Les chalutiers, lorsqu'on place les filets, ils viennent en faisant des traînes aussi pour faire aussi les pêches, ils ramassent nos filets. Ils arrivent toujours à nous arracher. Le bateau vient jusqu'à 150 mètres du bord. Hein. On les voit, on voit les gens, même avec des portables en caméra, on peut les filmer. Bon, tu sais, moi j'ai une petite pirogue en pagaille. Ne peut pas les joindre parce que eux, ils ont des moteurs. Lorsqu'ils voient les petites pirogues venir de loin, ils vont au large et puis on ne peut pas les rattraper. Et c'est comme ça, ils nous embêtent.
Et ça fait longtemps que ça dure?
Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je peux dire, ça peut valoir au moins 8 ans, 9 ans, 10 ans par là. Hein. Ils sont là. Ils sont là. Et les années, ils viennent, ils peuvent faire au moins 6 mois en nous embêtant comme ça dans l'année. Et quand ils viennent, on veut faire un peu, quand même une petite remarque par les drapeaux pour savoir de quel pays ils viennent. Mais on ne voit pas de drapeaux dans les bateaux. Ouais. Ça fait que maintenant même, là, toutes les qualités du poisson qu'on avait l'habitude de voir facilement, c'est maintenant rare. On ne les trouve pas comme l'habitude. Et ce n'est pas toutes les qualités du poisson qu'ils prennent. Ils en profitent en mettant à détruire aussi ce qu'ils ne veulent pas. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est déjà mort. Et ils jettent en l'eau. On a l'habitude que quand il passe comme ça, au moins dans un mois, quelques temps après, on voit les carapaces, les langoustes, ça accroche au bord. Donc on a l'impression qu'il est tué, il est détruit. Donc maintenant, c'est difficile d'avoir des langoustes.
Ça vous inquiète ça?
Oui, ça nous inquiète beaucoup. Parce que moi, présentement, c'est de ça que je peux dire que je me nourris avec ma famille. J'ai présentement 4 enfants à l'école. C'est avec la pêche que j'arrive à financer pour mes enfants aussi. Et c'est un problème, parce que ça ne marche plus comme avant.
Abou Bamba, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur l'environnement marin, qui réunit 17 pays, de la Mauritanie à l'Afrique du Sud. Comment réagissez-vous à ce témoignage?
Bah, écoutez, nous compatissons en tout cas à la détresse de ce jeune pêcheur, et qui n'est pas symptomatique seulement des pêcheurs du littoral ivoirien, mais de toute la façade atlantique du continent africain, et c'est régulièrement que nous sommes saisis par des ONG, par des associations communautaires de base pour se plaindre de ce phénomène-là. c'est assez triste parce que c'est pas seulement un problème environnemental, c'est aussi surtout un problème social. On assiste aujourd'hui à la disparition de certaines communautés de pêcheurs. Sur le littoral ivoirien, il y a la tribu des Ndima qui tourne dos aujourd'hui aux océans pour s'adonner à l'agriculture parce qu'il n'y a plus de poissons. Au niveau de la pêche côtière, ils n'ont pas les moyens d'aller aussi loin que les chalutiers. C'est la même chose aussi au large de la Mauritanie avec les Miragouen. C'est vraiment une catastrophe sociale. Et les moyens dont disposent les États sont assez limités pour faire face à ce phénomène. Et encore plus, vous savez que plus de 80% des protéines d'origine animale, en tout cas, que consomment les Africains, viennent de la pêche, de la pêche côtière surtout. Et malheureusement, les pays n'arrivent plus à assurer, si vous voulez, cette subsistance-là. Et ça fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire importe 80% de ses besoins en protéines de poisson. Donc, c'est franchement un problème assez triste. Oui.
Alors, pour riposter, il y a des solutions que vous mettez en avant dans votre livre « Demain, l'océan », Hugo Verlhomme, comme par exemple Environmental Justice Foundation. Expliquez-nous.
Ben, c'est vrai que la surpêche, c'est le problème principal de l'océan aujourd'hui, parce que c'est ce qui détruit toute la biodiversité de façon aveugle. Il y a énormément de prises accidentelles. Et en même temps, ça serait le problème le plus facile à régler, puisqu'il suffirait de réussir à interdire cette pêche pour qu'elle s'arrête. C'est pas comme les pollutions qui continueraient pendant des années. Donc c'est vraiment des décisions politiques. Et dans la mesure où il y a des bateaux illégaux, pirates, qui ravagent l'océan, en particulier à l'ouest de l'Afrique, puisqu'on sait qu'en une semaine, les pêcheurs asiatiques prennent autant que les pêcheurs africains en un an, pratiquement. 37% de tout ce qui est pris là-bas, c'est de la pêche illégale. Donc il y a une fondation qui s'appelle Environmental Justice Foundation, une anglaise, qui a décidé de munir un certain nombre de marins pêcheurs africains, parfois sur des tout petits bateaux, de smartphones munis d'un GPS très performant, parce que souvent ils voient passer ces bateaux illégaux devant eux qui ratissent leur mer, leurs poissons, et ils ne peuvent rien faire. Or, armé de cet outil qui envoie le GPS immédiatement à la fondation, eh bien la fondation peut réagir auprès des autorités africaines de façon à ce que ces bateaux soient arraisonnés le plus vite possible pour être fouillés et tout ça. Et on sait que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, ces bateaux illégaux qu'on appelle les blue boats, comme par exemple du côté de l'Asie du Sud-Est, eh bien quand ils sont en train de pêcher illégalement, et on prend leur équipage, on le met dans un avion et on brûle les bateaux. Et je pense que voilà, il faudrait arriver à des mesures aussi drastiques que ça pour arriver à arrêter cette destruction massive des océans qui est vraiment ce qui se passe de plus grave aujourd'hui.
Il y a aussi le Global Fishing Watch qui a été créé par la fondation Leonardo DiCaprio et Google.
Tout à fait. Alors ça, c'est une entreprise très originale. Leonardo DiCaprio est assez impliqué dans la protection des océans. Et donc, ils ont réussi à mettre au point des algorithmes à 10 millions de dollars, enfin très complexes, qui permet en fait aux internautes du monde entier de surveiller les zones protégées de l'océan. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Ça s'appelle Global Fishing Watch. C'est comme un jeu vidéo. Il faut le lire, voir comment ça fonctionne. Vous savez que tous les bateaux sont munis de transpondeurs qui permettent de connaître leur route, leur position, leur vitesse, leur port d'origine, leur port d'arrivée. Et grâce à ces indications, les algorithmes permettent de cibler les bateaux éventuellement de pêche illégale. Et tout internaute qui regarde ce programme peut lui dire « Tiens, il y a un bateau qui est rentré là, c'est pas normal », et le signaler. Et grâce à ce procédé qui en fait implique tous les gens qui ont un ordinateur, eh bien on a réussi à raisonner un grand nombre de bateaux illégaux. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est ce qui permet à tout individu muni d'un ordinateur ou d'un smartphone de participer à la connaissance de l'océan et à la protection, puisqu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont un engouement fantastique pour l'océan, qui veulent tous naviguer, plonger, surfer. Eh bien ils peuvent le faire de façon utile, et notamment auprès des clubs de plongée. Quand on va sur un récif corallien aujourd'hui, au lieu de le regarder bêtement mourir dans certains cas, eh bien on donne des instructions aux plongeurs pour faire des choses utiles en fonction de l'endroit, soit de la reconnaissance de poissons, soit même du bouturage de corail, puisqu'on sait aujourd'hui bouturer le corail et le faire repartir. Eh bien au lieu de plonger simplement comme un touriste qui est venu là brûler du kérosène dans l'air et regarder des jolis poissons, brusquement on se rend utile. Et c'est ça les sciences participatives, et je pense que c'est l'une des solutions majeures à tous les problèmes que rencontre l'océan aujourd'hui.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous fêtons l'océan, cette journée mondiale dans ses pas du vent. C'est aussi ce que vous allez faire tout le week-end à l'aquarium tropical de la Porte Dorée que vous dirigez. Dominique Duchet, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle richesse abritez-vous dans cet aquarium?
Alors, évidemment, on abrite des aquariums avec des poissons dedans. Donc, il n'y a pas besoin de brûler du carbone pour venir voir des poissons à Paris. Ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, cette journée mondiale des océans, il nous paraissait important, notamment sur cette région parisienne, d'utiliser ce terme de fête. C'est aussi important parce qu'on est quand même dans le pessimisme.
Dans le
réalisme, on va dire. Dans le réalisme, il y a de quoi. Mais il y a aussi de l'espoir parce qu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, il y a tout un tas d'initiatives qui se font aujourd'hui de gens qui sont acteurs pour protéger et faire changer les choses. Et ça, c'est vraiment important. Et l'idée, ça a été effectivement de regrouper finalement autour de cet aquarium tropical, autour de jolis poissons et de jolis biotopes que nous présentons, ces acteurs, alors que ce soit effectivement des instituts de recherche, que ce soit des ONG, que ce soit le monde éducatif, les sciences participatives dont on vient de parler, c'est effectivement très important, donc de façon à montrer au public parisien, qui va venir nombreux bien sûr, de tout ce qui peut être fait aujourd'hui et de les inciter petit à petit à devenir ces acteurs aussi au quotidien, parce qu'effectivement, même à Paris, on peut jeter une bouteille en plastique et elle se retrouvera effectivement au milieu de l'Atlantique.
Alors, il va y avoir de nombreux ateliers, de nombreuses conférences. Parmi les conférenciers, il y a vous, Pascal Joanneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes docteur en océanographie et spécialiste des coraux. Alors, les coraux, on en a parlé déjà, juste avant, c'est un animal essentiel à la biodiversité de l'océan.
En tout cas, oui, bien entendu. En tout cas, pour les récifs coralliens, c'est vrai que le corail, c'est un petit animal, bien souvent... Il paraît extraordinaire pour ceux qui ne plongent pas parce que c'est à la fois un petit être vivant qui s'allie avec du végétal, ce qu'on appelle les zooxanthelles, des petites algues qui sont à l'intérieur de l'animal corail, et tous les deux allient donc animal et végétal pour faire du minéral le squelette de corail. Et ces tout petits êtres que sont les coraux peuvent construire des grandes barrières de corail, des grandes infrastructures sous-marines. Ce sont les plus grandes bioconstructions de la planète. Et nous, la France, on a la chance d'avoir des collectivités d'outre-mer dans les océans. Et nous sommes donc le quatrième pays au monde pour nos récifs coralliens. Donc ce qui, évidemment, nous donne une grande responsabilité en termes de gestion de ces récifs, parce qu'il faut savoir que sur l'ensemble de la planète, d'ailleurs je me permets de dire aujourd'hui c'est la journée des océans, mais c'est encore l'année internationale des récifs coralliens. Donc je vous invite à vous pencher sur ce que sont les récifs coralliens. Je ferme la parenthèse et je vous dis que dans le monde, il y a près de 800 millions, près d'un milliard de personnes qui, comme le disait un de nos interlocuteurs tout à l'heure, vivent essentiellement, cherchent leurs protéines essentiellement à partir des récifs coralliens et donc de la mer.
Et des récifs coralliens qui sont les nurseries un peu de l'océan?
Pas forcément, parce que ce sont des écosystèmes bien particuliers, mais on a aussi des nurseries dont on peut parler. Et ça aussi, c'est un écosystème qui est très lié aux récifs coralliens. Ce sont les fameuses mangroves, dont on parle très peu, parce qu'elles sont mal aimées, parce qu'on y trouve des moustiques, parce que... Mais en fait, là aussi, ce sont des milieux qui sont très protecteurs et qui sont aussi, comme vous disiez, des nurseries. Et pour en revenir aux récifs coralliens, donc ça fait partie de l'océan, bien sûr, dans l'océan tropical. On a aussi des récifs, il faut le savoir, des récifs coralliens un peu profonds, hein, mais c'est pas du tout la même chose. Là, on entend beaucoup parler des récifs au large de la Guyane. Ça n'a rien à voir avec les récifs tropicaux dont on parle actuellement. Voilà.
Alors on suit, dans C'est pas du vent, l'expédition de la goélette scientifique Tara qui parcourt le Pacifique depuis 2 ans pour étudier justement la résilience des coraux face aux changements climatiques et aux pollutions diverses. Et quand on est connecté à cette expédition, les nouvelles ne sont pas très bonnes.
Elles ne sont pas toujours très bonnes. Et puis ce qui se passe, c'est que les coraux, comme les récifs coralliens, comme l'ensemble de l'océan, sont soumis à des pollutions, à des pressions. Et en effet, les pollutions, alors les fameuses pollutions plastiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les intrants de l'agriculture, notamment par exemple près des côtes australiennes. Donc les récifs coralliens sont aussi soumis au changement climatique. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit.
Ils n'aiment pas quand ça se réchauffe.
Ils n'aiment pas quand on les perturbe. C'est-à-dire, ils n'aiment pas la grosse chaleur, ils n'aiment pas quand il y a des produits chimiques qui viennent. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que nos chers petits coraux qui vivent en association avec ces algues, eh bien, ils sont mal à l'aise et on ne sait pas qui met l'autre dehors. Il y a une espèce de divorce, si vous voulez, entre l'algue et le corail.
Quand c'est ce qu'on appelle le blanchiment. C'est
le blanchissement. Alors ça, je le dis à tous les auditeurs, le blanchiment, c'est pour l'argent, hein, quand vous faites des malversations, et le blanchissement, c'est pour les coraux.
Blanchissement.
Le blanchissement du corail. Mmh. Et donc, si vous voulez, c'est lié au fait qu'il y a que ces algues sortent du corail. Donc, alors je vais faire un petit peu, ça va être un peu technique, mais les algues sont des petits végétaux. Ils prennent la lumière du soleil, ils font ce qu'on appelle la photosynthèse. Et les produits de cette photosynthèse servent à l'animal corail pour faire son propre métabolisme. Je le fais rapide. Hein. Et en échange, le corail, quand il mange du plancton, par exemple, il a comme nous, quand on mange, des déchets. Ça sert en quelque sorte, entre guillemets, d'engrais aux algues. Donc il y a vraiment une symbiose parfaite. Quand cette symbiose est cassée, quand il y a ce divorce, le corail va devenir petit à petit blanc. C'est malheureux à dire, moi qui suis plongeuse et qui pendant longtemps j'ai aussi dirigé l'aquarium de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, et on a eu malheureusement des épisodes de blanchissement où les coraux commencent à blanchir avec des couleurs absolument magiques, magnifiques, parce que les algues sortent. Donc les couleurs brunes, marron, vertes s'estompent, puisque c'est les algues qui donnent cette couleur-là. Et le corail devient, avant d'être complètement blanc, il a des couleurs un peu fluorescentes, bleu pastel, vert pastel, jaune. C'est juste très joli, mais
ce n'est pas un bon signe.
C'est un très mauvais signe. Et si le stress perdure, donc ils deviennent tout blancs, et là, à ce moment-là, ils peuvent mourir. Et c'est là que commencent les gros ennuis, parce que les coraux, ils ne peuvent pas se sauver. Donc, ils n'ont pas de petites jambes pour se sauver. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se font envahir par leur pire ennemi, les algues, des petites algues, qui viennent envahir donc le récif. Et donc, une nouvelle phase de destruction est en cours. Et entre un moment où on a un récif qui a été détruit, que ce soit par un cyclone, par nous, les humains, ou en raison du blanchissement ou pas, il faut à peu près compter entre 15 et 18 ans pour retrouver un espèce de dynamisme sous-marin dans les récifs.
Oui, donc on comprend bien que l'enjeu est très important.
Il est important, oui.
À Boubamba, il faut rappeler en plus que préserver, ça peut rapporter gros, notamment en Afrique, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie bleue.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de regarder les solutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est les solutions qui se présentent aujourd'hui à l'Afrique en matière de gestion durable des océans, effectivement, c'est appliquer les principes de l'économie bleue dans les pays africains, c'est-à-dire créer de la richesse sur la base d'une exploitation durable des écosystèmes, enfin des biens et services écosystémiques que nous offrent les océans. On va prendre différents secteurs. On va prendre le secteur de l'énergie, par exemple. Aujourd'hui, en Europe, on observe qu'il y a de plus en plus d'éoliennes immergées offshore, comme on dit. Alors qu'en Afrique, on n'est pas sans ignorer que régulièrement, nous avons des coupures d'électricité dans la plupart des grandes capitales. Et il serait intéressant de voir dans quelle mesure on pourrait investir dans le secteur des énergies renouvelables. Et on ferait d'une pierre deux coups. En même temps qu'on respecterait nos engagements pris à Paris lors de la COP21 en termes de réduction d'émissions des gaz à effet de serre, on fournirait aussi de l'électricité à ces communautés qui, en fin de compte, ont besoin de quoi ? D'une lampe, d'un téléphone portable à charger, éventuellement un poste radio ou une télévision. Deuxièmement, c'est dans le secteur de tout ce qui est activité touristique. Il y a de très belles plages en Afrique, mais malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, il est nécessaire d'investir afin de se débarrasser effectivement de cette pollution due aux sacs plastiques, mais aussi à la matière fécale. Au niveau aussi de la pêche, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait un manque à gagner, en tout cas un grand déficit en termes de fourniture ou bien d'approvisionnement en matière de protéines d'origine animale, notamment le poisson. Il existe aujourd'hui dans certains pays des méthodes de production très propres de ce qu'on appelle sea farming, et c'est éventuellement des choses qu'on pourrait essayer de développer sur le continent africain. De façon générale, il y a aussi tout ce qui est infrastructure portuaire et développement du transport maritime. Donc, c'est tous des secteurs, en tout cas économiques, qui se basent sur une exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers et qui permettent de créer de la richesse et surtout de la redistribuer. Parce qu'on observe sur la côte, la façade atlantique du continent africain, les niveaux de pauvreté assez surprenants, alors qu'il y a tous ces ressources-là qu'on peut exploiter de façon durable et dont on peut redistribuer aussi les bénéfices. Et peut-être la dernière chose, c'est l'agriculture. Vous vous rendrez compte qu'on a coupé tous les cocotiers, la grande majorité des cocotiers, soit pour en faire des plages, soit pour en faire des hôtels ou des constructions aujourd'hui en Afrique. Alors qu'il existe un véritable marché de la noix de coco. Aujourd'hui, à Rungis, un coco coûte 1 euro. Il y a un grand marché de la noix de coco. Malheureusement, les pays africains contribuent au moins de 1% à cette offre justement de vente des noix de coco. Et mais surtout, le cocotier, tout est bon. Il y a l'amande, il y a la coque, il y a l'huile qu'on extrait là, notamment l'huile de copra, il y a les troncs qu'on utilise pour le matériel de construction, et puis surtout il y a les fibres qui rendent à la construction des sièges des avions. Donc il y a une véritable opportunité qui se présente à nous face à la crise justement de la gouvernance des océans en Afrique.
Hugo Verlhomme, là on entend Abou Bamba nous expliquer à quel point il faut que le continent africain se tourne vers l'océan. Mais vous, dans votre livre, vous expliquez tout simplement qu'on n'a pas besoin d'attendre uniquement la volonté politique. Tout à chacun peut agir.
Oui, et puis je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'il met le doigt sur deux choses essentielles, notamment les éoliennes offshore. Il y a une étude qui vient de sortir, que je cite dans le livre, qui dit qu'en fait, les éoliennes offshore produisent 30% d'électricité en plus que sur le sol. Et en plus de ça, ça forme des espèces de réserves naturelles. C'est-à-dire que les embases des éoliennes sont couvertes de moules qui attirent des crustacés, qui attirent des poissons, qui attirent des phoques. Et en fait, quand on vient dans ces zones, eh ben, on récolte des algues, des coquillages, etc. Et ils ont fait le calcul qu'une ferme d'éoliennes offshore de la taille de l'Inde, c'est un calcul théorique, permettrait de fournir de l'électricité à la planète entière. De même, pour l'aquaculture dont parlait Abou Bamba, il y a aujourd'hui une aquaculture inspirée de la permaculture et qui n'est plus une aquaculture marine polluante comme ça l'a été pendant des années, mais une aquaculture où tout est recyclé et non seulement on peut récupérer du poisson, mais on peut aussi récupérer des bivalves, des holothuries, des oursins, des algues. Tout ça est au point, y compris dans les énergies marines renouvelables, tout est au point, les fermes à vagues fonctionnent un peu partout. Et il est temps de mettre tout ça en action et d'oublier les énergies carbonées et fossiles.
Merci à tous d'être venus dans C'est pas du vent. Renseignez-vous près de chez vous, il y a sûrement des événements pour fêter l'océan. Et à Paris, ce week-end, c'est à l'aquarium tropical de la Porte Dorée que ça se passe. Dominique Duché, c'est tout le week-end, samedi et dimanche.
Tout le week-end, non-stop, avec vraiment...
Peut-être pas la nuit quand même, mais...
Non, mais assez tard quand même. Oui, on va même faire des choses le soir avec des balles et puis des pièces de théâtre. On va ouvrir sur le culturel. C'est un moyen aussi de faire passer les messages.
Voilà, puis vous pourrez rencontrer Pascal Joanneau. Vous voulez y rajouter?
Oui, je voudrais rajouter à tout ce qu'on a entendu est tellement vrai que je crois qu'aujourd'hui, d'abord, l'océan, c'est le lien de l'humanité. C'est lui qui nous lie entre tous. Et puis, je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a absolument beaucoup, beaucoup de technologies qui nous permettent de gérer notre environnement, aussi bien marin que terrestre. Et je crois qu'il est temps, là, que nous passions aux actions. Alors, il y a plein d'actions qui sont faites. Mais je voudrais juste rappeler une chose. Alors, c'est peut-être parce que je suis océanographe. Le premier qui a tiré la sonnette d'alarme sur le climat, c'était en 1957, c'était un océanographe qui s'appelait le professeur Revel, lequel avait un étudiant qui était le vice-président des États-Unis, Al Gore. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que ça a été, Al Gore a été vraiment sensibilisé là-dessus, mais c'était juste pour vous dire qu'en 1957, on tire la sonnette d'alarme et on crée le GIEC quand même beaucoup plus tard. Là, on est dans une période... Où vraiment, il faut que nous ayons tous conscience que l'océan, c'est ce que disait un de vos intervenants tout à l'heure, c'est quand même l'élément de notre humanité. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, chacun sait très bien que le jour où il met son bouchon en plastique, son sac en plastique, une pollution quelconque, il est aussi responsable. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on doit être tous responsables de nos actes.
Voilà,
et qu'on peut agir.
Écoutez, ce sera entendu. Merci Hugo Verlhomme aussi. Je rappelle le titre de votre livre, Si l'on veut s'impliquer. Donc dans une association, c'est un beau mode d'emploi. Ça s'appelle Demain l'océan et c'est publié chez Albin Michel. Merci à Abou Bamba, merci à tous.
She wonders what she had done to him, her toes in the sea. Yeah. Love lost and love surrounded. She only wanted to swim by the shore. The island was to her. I can get you up tonight and do it's alright if I can get you up tonight.
Dans les années 80, les glaciologues ont découvert que l'on pouvait remonter l'histoire du climat de notre planète à travers l'analyse des bulles d'air enfermées dans la glace de l'Antarctique. Mais plus récemment, c'est dans un cratère au cœur de la forêt tropicale brésilienne que ce travail a commencé. Bonjour Marie-Pierre Ledru.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Vous pilotez le programme Tropicole. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors le projet Tropicole est un projet de recherche sur les réponses de la forêt tropicale à la variabilité climatique sur des temps, des échelles de temps très longs, puisqu'on remonte jusqu'à 1 million d'années environ. C'est un projet qui est financé par la fondation BNP Paribas dans le cadre de son programme Climate Initiative et aussi par le programme LEF de l'INSU.
Alors, il faut un petit peu expliquer aux auditeurs, parce que quand je disais c'est un projet formidable et assez fascinant, ça se passe au cœur de la forêt pluviale brésilienne, où se trouve la dépression de Colonia. C'est un cratère, c'est ça, de 3,5 km, qui serait dû à quoi, une chute de météorite peut-être ?
Alors, on pense que c'est une chute de météorite qui a ouvert ce cratère, qui fait 3,5 km de diamètre et 300 mètres de profondeur. Mais pour en être sûr, il faudrait pouvoir forer jusqu'à la base, jusqu'à la roche à 300 mètres de profondeur, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Pas encore, voilà, c'est le rêve, notre rêve des prochaines années. Pour l'instant, on en a fait 50 mètres sur les 300 mètres et on espère avoir 1 million d'années d'histoire de cette forêt. Donc, on analyse toutes les façons dont la forêt peut répondre à la variabilité climatique et on reconstitue les conditions de climat, d'environnement, température, durée de la saison sèche, précipitations, qui correspondent à une certaine composition floristique de la forêt et donc à la façon dont la forêt répond à toute cette variabilité climatique.
Alors pour que ce soit très concret pour les auditeurs, ça veut dire qu'il y a quand même une quinzaine de personnes qui étudient centimètre par centimètre. Alors la première carotte que vous aviez faite, c'était 14 mètres de profondeur. Là, c'est 50 mètres. 50 mètres, ça vous remontez à combien de temps en arrière ?
Alors, on espérait remonter à 800 000 ans quand on a commencé le projet l'année dernière. Maintenant, on sait qu'on va arriver à deux fois plus, donc on est tous très contents. Effectivement, donc ces 50 mètres sont découpés en tranches de 1 cm d'épaisseur. Et sur ces centimètres, il y a à peu près 15 spécialistes qui travaillent. Et chacun va prélever l'indicateur sur lequel il va faire ses analyses pour reconstituer les conditions de climat et d'environnement de cette forêt à une époque donnée.
Alors, à quoi ça sert, ce genre de recherche ?
Eh bien, ça sert d'abord à mieux connaître la forêt tropicale. Il y a très, très peu de sites de ce type-là sur la planète et dans l'hémisphère sud. Il y en a trois. Il y en a un en Australie, en Afrique du Sud et donc Colônia, au Brésil, dans la région de Sao Paulo, au Brésil. Ça nous sert donc à mieux connaître cette forêt tropicale qui ne répond pas du tout à la variabilité climatique comme la forêt tempérée. On commence à s'en apercevoir. Les réponses des forêts tropicales aux successions des cycles glaciaires, interglaciaires sont complètement différentes. Et là, on découvre tout un monde qu'on ne connaissait pas sur des échelles de temps beaucoup plus longues. On commence à s'apercevoir aussi que les pluies, l'hydrologie qui est produite par les forêts tropicales, l'humidité qui est produite par les forêts tropicales sert aussi à alimenter les calottes de glace de l'Antarctique, par exemple, dans le cas de Colonia, qui est dans l'hémisphère sud. Et donc, il y a tout un lien et un transport de masse d'air humide vers l'Antarctique qui contribue à maintenir les calottes de glace du pôle sud.
Bonjour Pierre-Michel Forger.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste de la forêt tropicale au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors à travers le travail de Marie-Pierre Ledru, on réalise la richesse que représente la biodiversité des forêts tropicales. Il faut peut-être rappeler en quelques mots cette richesse que l'on connaît aujourd'hui.
La richesse des forêts tropicales, si on pourrait dire, c'est l'essentiel quand même de la richesse qu'il y a sur Terre, pour la partie terrestre, la croûte terrestre, mais il y a aussi, bon, on en a parlé tout à l'heure, la richesse des océans. Ça aussi, c'est une partie tropicale qui est extrêmement abondante. On va dire 80-20%, l'essentiel de la diversité est dans les régions tropicales. Mais après, il faut regarder par continent. Il y a des continents qui sont plus riches que d'autres, il y a des régions tropicales qui sont plus riches que d'autres.
Alors où sont les plus riches ?
Les plus riches sont là où il y a les hotspots. Là où il y a des hotspots, il y a souvent fragmentation des forêts, des bassins. Donc on a une augmentation de la diversité. Par exemple, dans les Andes, on a une énorme diversité faunistique, floristique. Ça fait partie des grands hotspots. Les Caraïbes en font partie. Les îles de l'Indonésie, par exemple, c'est un autre hotspot extrêmement important. Et notamment aussi du point de vue récif corallien au niveau océan et terrestre.
Et le bassin du Congo ?
Bassin du Congo, bien malheureusement, l'Afrique est un peu, comme on dit toujours, le perdant là, ici. C'est que l'Afrique centrale est pauvre par rapport aux autres continents, Afrique, Amérique du Sud ou Asie, tout simplement parce que c'est assez uniforme finalement. On a un grand bassin, le bassin du Congo, coincé entre le rift d'Albertine et puis le bassin du Togo, le gap de Dahomey. Et puis, on a des espèces qu'on va retrouver depuis les côtes jusqu'à l'intérieur du Congo.
C'est assez uniforme
finalement. Mmh. C'est assez plat aussi. Il y a un grand fleuve, le fleuve Congo. Et donc, c'est assez plat, contrairement donc à l'Amazonie, surtout les contreforts des Andes qui génèrent énormément de bassins interfluviaux.
Et alors, le point commun entre toutes ces forêts tropicales, malheureusement, c'est qu'elles sont toutes menacées. Quelles sont les principales causes de menaces, de déforestation ?
Alors, il y a deux questions en une. Quelles sont les principales causes quelles sont les principales menaces ? La principale menace, je dirais, c'est l'homme. On est parti de l'Afrique, il y a 100, 200 000 ans à peu près maintenant, en tout cas nous, l'Homo sapiens actuel. Donc on est aussi le principal coupable de la destruction des écosystèmes tropicaux, forestiers, mais aussi donc aquatiques. Derrière l'homme, c'est le climat ensuite, puisque au fur et à mesure qu'on a évolué, qu'on s'est développé, dit-on, on a malheureusement affecté considérablement le climat aujourd'hui. Donc c'est la principale cause. La deuxième ou la cause distale de l'action de l'homme, c'est le climat. Et entre les deux, il y a toutes les actions de l'homme. Le développement en premier lieu, les routes, les mines Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On a parlé dernièrement du récif au large de la Guyane du Brésil. Et bien, on a aussi la montagne d'or en Guyane. Voilà
une
cause principale de destruction de la diversité de la forêt tropicale.
Et en quoi le programme Tropicole peut vous aider? Quel lien on peut faire finalement entre le travail de Marie-Pierre Ledru et le vôtre?
Ce qui est intéressant dans l'étude Colonia, c'est qu'on peut voir qu'une forêt qui a été détruite, je pense à presque 100% par une météorite, aujourd'hui s'est reconstituée finalement, et c'est grâce aussi à l'apport des animaux qui ont permis à cette faune, du moins cette flore, de recoloniser un espace assez conséquent. Et bien sûr, il y avait sans doute des effets secondaires à cette météorite sur de grandes distances. Donc aujourd'hui, du moins avant que ça ne soit redécouvert, c'est une zone qui était recouverte de végétation et repeuplée grâce à l'apport des animaux. Donc le point important, c'est que si une forêt tropicale est encore riche en animaux, notamment les animaux frugivores disperseurs de graines, on aura de la végétation. Malheureusement, une des causes principales de la destruction de la biodiversité, c'est aussi la chasse et l'exploitation de la faune terrestre, qui entraîne donc la disparition des grands herbivores, les éléphants en Afrique, mais il n'y a pas que les éléphants, on va parler des orang-outans en Asie, on va parler aussi des tapirs en Amérique du Sud, et tous ces animaux contribuent au maintien de la biodiversité.
Marie-Pierre Ledru, quelle est la prochaine étape dans vos recherches ?
La prochaine étape, comme je vous l'ai dit, c'est d'arriver à 300 mètres de profondeur et de reconstituer donc plusieurs millions d'années d'histoire de cette forêt tropicale et de la façon dont elle répond à la variabilité climatique sur des échelles de temps longs. Et on sait déjà que la forêt prend son temps pour répondre à une variabilité climatique, ce que l'on ne lui donne plus le temps de faire aujourd'hui.
Tout va trop vite.
Tout va trop vite. Et les déforestations pour l'agriculture tropicale, qui est un type d'agriculture en plein essor, qui produit le soja, le maïs, pour nourrir le bétail et la viande de notre... nourrir le bétail et produire la viande de notre planète, eh bien, cette forêt, elle n'est plus capable aujourd'hui d'y répondre.
Et puis il y a l'huile de palme aussi.
Et l'huile de palme.
Pierre-Michel Forger, voilà, l'huile de palme, le maïs, le soja. Là, on touche à des activités extrêmement destructrices.
Oui, mais disons, il y a huile de palme et huile de palme. Je ferai l'avocat du diable quelque part. Si on parle de l'huile de palme en Indonésie, en effet, c'est très très grave. J'ai pu traverser la Malaisie sur des centaines de kilomètres. Bah, c'est un peu comme la plaine de Beauce, hein. C'est du maïs ou de l'huile de palme. Quand on traverse le Mato Grosso, c'est à peu près la même chose, c'est
il
du maïs.
Rien.
Mais si, par exemple, il y a des cas, des essais de plantation d'huile de palme, comme nous, on a fait d'autres essais en Afrique centrale, si on évite de planter des palmiers à huile dans des zones qui sont de la forêt primaire et qu'on réutilise les anciennes zones déforestées, ben là, peut-être qu'on va trouver un équilibre. Cet équilibre que l'on a trouvé, nous, dans le bocage, ben peut-être qu'à un moment donné, il faudra aussi le trouver en région tropicale. Donc c'est ça aussi l'avenir, c'est de trouver un juste équilibre entre la population humaine qui a besoin de ses ressources, qu'elles soient maïs, huile de palme ou autre, et puis le besoin aussi de maintenir des espaces naturels sur des grandes surfaces, parce que sinon, c'est la perte de la diversité par simple destruction de la diversité dans des fragments forestiers.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.